wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Audrey Guélil, réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Elisabeth Philippe, Philippe Chevillet, Grégoire Leménager pour parler ensemble de Homo Sapiens, de Nivia Corneliusen aux éditions La Peuplade, Ce qu'est l'homme de David Soleuil chez Albin Michel, La nuit et des poussières de Jean-Baptiste Gendarme chez Gallimard. Boris Pinault est avec nous, surveillant les fils Twitter et Facebook de la dispute pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez déposer sur les livres en question. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour un film dont nous allons parler demain soir dans notre émission. Les bonnes manières de Juliana Rojas et Marco Dutra qui est sorti hier dans les salles. Et nous ouvrons cette dispute avec Homo Sapiens de Nivia Corneliusen, publié par les éditions québécoises La Peuplade, dans une traduction d'Inès Jorgensen, préfacée par Daniel Chartier. Ce livre, je pense que c'est la première fois que nous parlons d'une auteure groenlandaise dans cette émission. Il faut dire que le pays compte un peu moins de 56 000 habitants, une densité de 0,03 habitants au kilomètre carré. J'aurais appris ça. En France, par comparaison, nous sommes, comme vous le savez, Philippe Chevillet, 100,8 au kilomètre carré.
Bon, j'allais le dire.
Ben, vous le saviez. Vous savez combien d'exemplaires elle a vendu, notre amie groenlandaise ?
Ah ça, je ne sais pas, mais...
3000 exemplaires au Groenland, donc pour rapporter à la population, je rappelle, de 56 000. C'est vraiment un best-seller. Elle l'a écrit à 24 ans, un roman choral. On va rencontrer deux lesbiennes, un gay, une bisexuelle, une transsexuelle, mais la question de l'identité sexuelle n'est qu'un des aspects de ce livre, puisqu'il y a d'autres identités qui sont interrogées, notamment l'identité nationale, sujet très sensible au Groenland, pays, je le rappelle, constitutif du royaume du Danemark, selon la formule tout à fait légale. La romancière a d'ailleurs réécrit son roman en danois, est aujourd'hui traduit en français, comme il l'est en allemand, et il sera bientôt également traduit en anglais. Nos projets. 1. Mes études terminées et nos revenus assurés, nous achèterons une maison avec beaucoup de pièces et un balcon. 2. Nous nous marierons. 3. Nous ferons 3-4 enfants. 4. Tous les jours, nous irons faire nos courses après le travail et nous rentrerons à la maison en voiture. 5. Nous vieillirons et nous mourrons. Pitak. Un homme, 3 ans, des milliers de projets, des millions d'invitations à dîner, séances d'aspirateurs et de ménages qui tendent insensément vers l'infini, sourires faux qui s'en laidissent, baisers secs qui se figent comme du poisson séché. Il faut éviter le mauvais sexe. Mes orgasmes simulés sont de moins en moins crédibles. Mais nous continuons à faire des projets. Les journées s'assombrissent, le vide en moi s'agrandit, mon amour n'a plus aucun goût, ma jeunesse vieillit. Ce qui me maintient en vie se dirige uniquement vers la mort. Ma vie s'est usée, flétrie. Quelle vie ! Mon cœur, c'est une machine. Qu'est-ce qu'on va faire à dîner ce soir ? Des queues de porc gluantes qui rappellent ce que tu as dans ton pantalon, ai-je envie de lui répondre. Que fais-tu après le boulot ? Que ferais-tu si je ne te répondais pas, ai-je envie de lui demander. Que dirais-tu de passer une soirée tranquille ensemble ? Foutu roi de la tranquillité, depuis quand n'as-tu pas été un peu excitant ? Ai-je envie de gueuler ? Voilà le premier segment, de ce livre sous le signe Crimson and Clover, qui est donc le morceau que nous avons écouté, puisque chaque chapitre, chaque segment a sa chanson, que je ne vous demanderai pas de chanter. Elisabeth Philippe, même si je suis sûr que vous reprendriez très bien l'un des morceaux de ce livre.
Oui, celui de Rihanna, certainement.
Ah oui, très bien. Vous le ferez en fin d'émission ?
Voilà,
très bien.
Absolument.
C'est noté, je vous le rappellerai évidemment.
Oui, ben voilà, vous avez donc lu le début du premier segment. Donc chaque segment, chaque partie correspond à un personnage, un des personnages donc de ce roman choral. Ici, il est question de Fia. Donc, comme on l'a bien noté et entendu, jeune femme qui ne supporte plus la vie qu'elle mène avec avec son compagnon, en pleine crise de désamour, et Fia. Dans cet état d'esprit, va au cours d'une fête, puisqu'il y a énormément de fêtes, énormément d'alcool dans ce texte, va croiser la route d'une jeune femme qui s'appelle Sarah, et sa vie va s'en trouver totalement bousculée. Ce désir qu'elle appelle de ses voeux dans le passage que vous avez lu va soudain se réveiller. Et
Sarah, la plus belle femme du monde en
Sarah,
même temps.
Sarah, la plus belle femme du monde.
Faut le dire.
Qui est, alors là, c'est les complications qui arrivent, qui a déjà une compagne, une maîtresse. Et donc, il y aura un chapitre consacré à Fia, un chapitre consacré à Sarah, un autre à la compagne de Sarah, un enfin au frère de Fia, et un dernier à la colocataire de Fia, Arnaque.
Arnaque,
où il y a un jeu de mots, puisque je parle couramment groenlandais, qui signifie également femme, hein, si je ne me trompe pas, en groenlandais.
Oui.
Bien. Et donc, tous ces destins, tous ces personnages vont se croiser au cours du livre. Donc, la rencontre... Mais moi, j'ai vraiment été beaucoup plus sensible à la première partie. Je trouve que déjà... Par l'écriture même, il y a quelque chose de très coupant, de très sec,
très
d'assez
sec,
ironique,
c'est pour ça qu'on l'entend,
et qui m'a vraiment intriguée. Ça s'ajoutait à la curiosité évidemment qui était éveillée par la nationalité de l'auteur, son jeune âge, le sujet. Et c'est vrai que c'est, je trouve, l'histoire la plus captivante. Donc Fia, en rencontrant Sarah, voit sa vie bouleversée et elle a cette phrase que je trouve très belle. Elle a peur, elle est aussi assez effrayée par ce qui lui arrive, et donc pour s'entraîner entre guillemets, elle va d'abord avoir une relation sexuelle avec sa colocataire Arnaque. Mmh. Et au terme de cette relation, elle dira j'ai trouvé ma réponse est lesbienne. Je trouve cette phrase absolument superbe. Donc voilà, il y a une langue très très moderne, très coupante. Chaque chapitre a son propre style pour essayer de donner une voix singulière à chaque personnage. C'est pas toujours, c'est assez inégal. C'est pas toujours réussi. L'auteur insère des textos, insère des hashtags, des paroles de chansons. Ça se veut postmoderne, moderne ou contemporain. Moi, je trouve que c'est un peu vu et revu. De toute façon, le fait d'insérer des textos, à partir du moment où même Guillaume Musso le fait, je vois pas ce qu'il y a vraiment très très nouveau là-dedans.
On peut espérer pour Niviaq Corneliusson, qui n'a jamais lu.
On peut le penser, mais
Guillaume Musso, non, mais c'est une très jeune auteure, donc elle fait aussi,
auteur,
elle a sans doute pas énormément lu de choses, peut-être avant même d'écrire.
Mais voilà, ce qui est vanté un peu à droite à gauche comme le signe de la modernité de son style, moi, c'est pas forcément ça qui me convainc. Ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, donc malgré ces petits errements stylistiques, c'est la façon dont, à travers l'intimité des personnages, elle va nous permettre, à nous lecteurs, d'appréhender la réalité de ce pays qu'est le Groenland, finalement sur lequel on connaît peu de choses. C'est une littérature aussi qu'on connaît peu et où on n'en connaît que des clichés ou alors en tout cas des images assez convenues, très viriles, de conquête de l'Arctique. Et là, c'est totalement autre chose. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que par les marges, par ces jeunes un peu en rupture, on va être amené à découvrir une certaine réalité du Groenland, effectivement ce complexe post-colonial que dénonce énormément Nivia Corneliusen, en disant qu'il faut accepter de prendre des risques et pas toujours faire porter le malheur ou le sentiment de... comment dire, d'enfermement sur le passé colonial colonisé du Groenland. Donc il y a toutes ces questions-là qu'elle arrive à traiter en passant par le récit de vie très intime, enfin de l'intimité de tous ces personnages.
Premier regard de Philippe Chevillé sur Homo sapiens.
Moi, au début, j'ai eu peur un petit peu. Non, le premier chapitre, très bien, mais après, j'ai eu peur dans les développements des élans amoureux que ça soit un petit peu fleur bleue, si je puis dire, avec le côté punk, fleur bleue, un peu de musique derrière, et ce que vous disiez, les textos, etc. Et j'ai trouvé finalement, alors moi, que l'ensemble, ça a du sens, parce que justement, on arrive à travers cette communauté à aborder le problème du genre, le problème de l'identité sexuelle, qui est quand même assez intéressant. Je pense notamment que le chapitre sur le garçon eunuque est celui qui nous parle peut-être plus du rapport ambigu vis-à-vis du Groenland, parce qu'il veut partir, il se refuse lui-même, parce qu'il refuse l'homosexualité à un moment donné, et il refuse le Groenland, il mélange un petit peu tout, et à travers ça, on a un regard un petit peu plus en arrière, décalé, que je trouve aussi intéressant. Et finalement, tous les personnages composent un ensemble. Et ce que disait Elisabeth, c'est vrai qu'on a une vision un peu renversée par le petit bout de la lorgnette du Groenland qui devient vraiment intéressante. Intéressante aussi parce que sur le plan plus général, c'est le propos, c'est un peu de nous dire, finalement, commençons par accepter notre identité avant les identités nationales ou autres, que tout ça n'a pas beaucoup de sens d'être sans arrêt branché sur ce nationalisme. Et je trouve que dans le style, alors dernière chose, on peut reprocher ce côté, oui, les textos, les lettres, les mails d'ailleurs, on comprend pas toujours à qui ils s'adressent, c'est un peu brouillon, mais je pense que l'ensemble, encore une fois, avec aussi cet anglais, ces chansons qui viennent rythmer, on a l'impression que ça a été écrit en groenlandais, en danois, en anglais, en texto, et du coup ça crée un petit frémissement qui n'est pas inintéressant. Alors après, il y a des passages qui sont un peu, je craignais l'eau de rose, il y en a un tout petit peu, mais il y a quand même un style derrière qui voit le jour, et ça fait quand même un livre original, et qui n'est pas seulement exotique, justement, pour tout ce qu'on raconte, qui n'est pas seulement, vous allez découvrir le Groenland des jeunes d'aujourd'hui, c'est plus intéressant que ça. Donc voilà, j'ai passé un moment agréable à le découvrir.
Ça a été agréable pour Grégoire le Ménager, cette lecture de Homo sapiens. Petite moue déjà en vous approchant du micro.
Oui, non, j'avais de la curiosité pour ce livre. Parce que c'est pas tous les jours qu'on lit une jeune Groenlandaise comme ça qui va nous parler des questions d'identité sexuelle. Donc on se dit que ça va être intéressant. Je crois que le New Yorker a fait un grand article sur ce phénomène extraordinaire et tout ça. Bon, il me semble que tout ça est un peu surévalué, que si elle n'était pas groenlandaise, on parlerait infiniment moins, quoi. Mais je ne suis pas en désaccord complet avec ce qu'ont dit mes camarades. C'est-à-dire que, effectivement, c'est assez fin sur les questions identitaires, c'est pas très bien maîtrisé, quand même, d'un point de vue formel. C'est-à-dire que, oui, stylistiquement, il y a quelque chose qui est un peu touchant dans l'intégration de mots d'anglais, d'extraits de chansons et tout ça. Et ça donne quelque chose d'assez percutant, une espèce de lyrisme un peu post-adolescent comme ça, qui est pas inefficace. Moi, ce que j'ai regretté, c'est que c'est sans doute imputable à son jeune âge. C'est que cette forme du roman choral, qui me semblait une excellente idée, avec ce point de vue tournant sur les événements, c'est pas très bien maîtrisé, et du coup, effectivement, on est un peu perdu, et il y a un ou deux effets de surprise qui sont liés justement au changement de point de vue d'un personnage sur des choses que les autres personnages ont déjà racontées autrement. Mais il y en a pas tant que ça, et j'ai trouvé ça un peu dommage. Enfin, le côté fleur bleue, oui, il m'a semblé un peu envahissant quand même. Et les passages auxquels j'ai été le plus sensible, au-delà de la toute première partie, qui ça me fait mal un peu mal au cœur de l'admettre, mais me réconcilier avec Elisabeth, le premier chapitre est très beau, la découverte de cette fille qui découvre qu'elle est lesbienne alors qu'elle vraiment elle le pensait pas du tout, et c'est plutôt bien fichu. Au-delà de ça, les passages que j'ai préférés, c'est ceux où il y a de l'ironie justement. Mmh. Et il y a des passages où il y en a et où c'est très savoureux. Et en particulier notamment sur l'identité groenlandaise. Enfin, il y a cette fameuse page 87 là qui nous explique être groenlandais est défini ainsi. On est groenlandais quand on est né et qu'on a été élevé au Groenland. On est groenlandais quand on participe au développement de son pays, etc., etc., etc. Puis ensuite, il y a ce que veut dire être groenlandais en réalité. On est groenlandais quand on est alcoolique, on est groenlandais quand on bat son conjoint, on est groenlandais quand on maltraite des enfants, etc. Et donc, il y a une espèce de renversement comme ça, là aussi, dans un geste un peu punk, un peu, qu'on peut trouver un peu convenu, mais qui est assez percutant, qui est assez touchant et qui pose bien la question de l'identité individuelle par rapport à des identités communautaires un peu pesantes, un peu envahissantes. Voilà ce que je voulais dire. Et puis sinon, non, je voulais quand même signaler que, de nouveau qu'on boit beaucoup trop dans ce livre. Enfin, là pour le coup, je sais pas si ce que vous aviez comme vision du Groenland, mais c'est vrai que moi j'imaginais plutôt une jeunesse qui passe son temps à picoler et le cliché se confirme, c'est-à-dire qu'ils boivent énormément.
Alors c'est vrai que le Groenland, on n'a pas beaucoup d'images. Il y a quelques années, Christophe Martaler avait fait un spectacle qu'il avait créé en résidence au Groenland qui s'appelait Moins que Zéro ou quelque chose comme ça, pas Less than Zero, mais c'était un peu de cet ordre-là. Il parlait de la température, évidemment. Et on passait beaucoup de temps à enlever et remettre ses vêtements chaque fois qu'on entre et on sort parce qu'il faut évidemment plusieurs couches. Je viens de voir aussi qu'il y a Samuel Collardet, qui est un très bon réalisateur, qui avait sorti il y a 10 ans maintenant un film qui s'appelle L'Apprenti, qui était... on a beaucoup parlé de Petits Paysans, et tant mieux cette année, mais L'Apprenti, c'était le même film, je pense, en mieux, il y a 10 ans. Il a réalisé beaucoup d'épisodes du Bureau des Légendes, et là, il sort Une Année Polaire, fin mai, qui se passe dans un petit village du Groenland. Le Groenland a le vent en poupe, mais moi, je dirais que c'est vrai qu'on va parler, ça c'est encore la remarquable programmation de cette émission d'un autre roman choral avec David Soloy tout à l'heure. Et j'aime bien le côté un peu mal foutu finalement de Nivia Corneliusen dans cette façon d'appréhender le roman choral, même si effectivement tout n'est pas d'une immense clarté. Il y a un passage qui est juste après cette page 85 ou 6 ou 7 que vous citiez tout à l'heure, Grégoire Leménager, qui résume un peu le rapport peut-être un peu ambivalent que je peux avoir par rapport à ce livre. Ça fait partie de ce journal du Garçon qui dit 4 juillet, je ne supporte pas que les Groenlandais disent toujours du mal les uns des autres, je ne supporte pas que les Groenlandais se parlent toujours mal, je ne supporte pas que les Groenlandais soient aussi en colère les uns contre les autres, je ne supporte pas que les Groenlandais portent autant de colère en eux. Sur cette île, la colère couve. Je suis en colère parce que la colère d'Arnac me met en colère. Je suis en colère parce que la colère d'Arnac a détruit notre amitié. Je suis en colère contre la colère d'Arnac. Je suis en colère contre Arnac. Ceci est l'île où vivent les fous. Je suis frustré par l'ignorance de Fia. Je suis frustré par la décision de Fia. Je suis frustré par l'orientation sexuelle de Fia. Je suis frustré que Fia ne soit pas en colère. Sur cette île, la colère grandit. Ça me rend fou de venir du Groenland. Ça me rend fou d'avoir l'air d'un Groenlandais, d'avoir des cicatrices. Ça me rend fou de ne pas être Danois, ça me rend fou d'être groenlandais. L'île de la colère, les gens en colère me mettent en colère, la colère qui couve me met en colère, la colère qui grandit me met en colère, la colère me met en colère, je suis en colère contre ma colère, je suis en colère contre moi-même, je ne veux pas être en colère, pas en colère. Il y a une force, il y a effectivement une forme de naïveté dans l'écriture, et en même temps je trouve qu'il y a quand même des choses qui passent dans ces fulgurances qui moi me saisissent et qui me donnent vraiment le sentiment de connaître un tout petit peu mieux le pays, évidemment qu'avant d'avoir ouvert ce livre, parce qu'on touche à des choses à la fois... je pense, ressenti par beaucoup de Groenlandais, même s'ils ne sont pas si nombreux, et auxquels on n'avait pas forcément accès, Elisabeth Philippe.
Oui, il y a quelque chose de viscéral, et moi je voulais revenir sur ce qu'avait souligné Philippe, à savoir la présence d'anglais, de danois, enfin ce mélange des langues, donc il y a vraiment mélange des gens, mélange des langues.
Qui est respecté par la traduction.
Qui est respecté par la traduction, donc il y a beaucoup d'anglais, effectivement, il y a beaucoup de phrases, faut peut-être...
Pas d'anglicisme, de l'anglais, vraiment.
Vraiment de phrases en anglais, ce qui pourra peut-être rebuter quelques lecteurs, mais ça crée un flux assez particulier, ça donne aussi une énergie, un rythme à l'écriture qui est pas désagréable du tout, et je trouve qu'il souligne aussi ce mélange des cultures, ce mélange des genres, cette fluidité avec laquelle aussi elle peut passer d'un personnage à l'autre, d'une sexualité à l'autre, et ça c'est plutôt à mettre à son crédit. Et puis on parle beaucoup de la spécificité groenlandaise, groenlandaise du livre, mais c'est aussi une façon de replacer le Groenland au cœur de débats très contemporains et finalement très universels. Et je trouve que ça, c'est aussi un atout et une qualité de ce roman.
Un petit commentaire, Boris Pinot, sur Twitter, avant le mot de la fin de cette séquence par Philippe Chevillé.
Oui, un commentaire de Guiteux Delcourt. En écrivant Homo sapiens, qui traite d'identité sexuelle et de violence sociale, Niviaq Korneliussen s'attendait à choquer les Groenlandais, mais pas à signer un best-seller.
Comme quoi, hein, les Groenlandais ont peut-être envie d'avoir une image plus proche d'eux qu'on pourrait le penser, parce que c'est vrai que c'est pas... On a lu quelques extraits. C'est pas simple d'être Groenlandais, visiblement. Philippe Chevillé, pour terminer cette séquence.
Non, je voulais juste dire, revenir un petit peu justement sur ce qu'on disait. Je trouve que c'est quand même pas mal en cinq portraits et en peu de pages d'arriver à montrer des gens face à leur identité, ceux qui basculent, ceux qui rejettent. La transsexualité qui est abordée de façon très, très juste, je trouve, en très peu de mots. Et d'une certaine façon, c'est aussi tous les tourments ou tous les élans amoureux dans ce qu'ils peuvent avoir de positif et de négatif, la trahison, etc., sont bien traités et de façon comme ça un peu brute de décoffrage. Donc voilà pourquoi, encore une fois, ce livre est à mon avis intéressant à lire.
Et puis c'était l'occasion aussi de parler des excellentes éditions La Peuplade, sites à Montréal, qui est une belle politique éditoriale. Homo sapiens de Niviaq Korneliussen, dans une traduction d'Inès Jorgensen, et puis on lira aussi avec profit la préface de Daniel Chartier. À suivre dans la dispute, David Soloy et Jean-Baptiste Gendarme.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Vous m'avez donc appris, juste avant que nous commençions cette dispute littérature, que David Soloy a un nom qui se prononce Soloy alors qu'il s'écrit S-Z-A-L-A-Y, Zalé, aurais-je dit. Alors si vous allez chez votre libraire demain après avoir écouté la dispute, demandez peut-être David Soloy, mais sachant que ça s'écrit S-Z-A-L-A-Y. Donc plusieurs points communs, je l'ai dit, on va en parler de la choralité de ce roman. On peut dire aussi que cet écrivain britannique est né à Montréal, ce qui nous fait un autre point commun. Pour les autres points communs, il a grandi à Londres, ça c'est autre chose. Il vit aujourd'hui à Budapest, d'où sans doute l'origine de son nom de famille. Le livre dont on va parler, Ce qu'est l'homme, a été finaliste du Man Booker Prize. Il a reçu beaucoup de prix, assez prestigieux. Il est publié en France chez Albin Michel, dans une traduction d'Étienne Gomez. C'est un livre qui s'intéresse donc à 9 personnages, cette fois, qui ont entre 17 et 73 ans, qui vivent en Europe et qui traversent chacun à leur façon une crise existentielle, disons ça comme ça. Ils sont comme 9 âges de la vie. Est-ce que c'est un portrait de l'éternel masculin du 21e siècle? On va en parler. À 4h du matin, lundi, dans le bus pour l'aéroport de Charleroi, il se sent seul, tout triste, un vrai loser. L'aube pointe sur l'autoroute déserte, il a le soleil en plein dans les yeux, partout des ombres. Il scrute le paysage, un paysage plat, chatoyant, qui file devant ses yeux brûlants. C'est comme un chant de liberté, un murmure exaltant qui dure jusqu'au moment où, apercevant un avion bas dans le ciel, il repense immanquablement à l'affront essuyé par son ego, obligé comme il l'a été de partir en vacances tout seul. Voilà un tout petit paragraphe de ce livre de David Soloy, Ce qu'est l'homme, publié chez Albin Michel et dont Philippe Chevillé commence à nous parler.
Oui, alors là, c'est un extrait, je crois que c'est le Lillois qui va partir à Chypre pour des vacances assez spéciales. Alors, quelques aventures sexuelles avec un couple, une femme et sa fille, histoire assez sordide. Moi, j'ai été très intéressé par ce roman. Alors, il y a le côté gimmick qui est mise en avant évidemment dans toutes les présentations. C'est 9 portraits, ce que vous disiez, 9 portraits d'hommes du 21e siècle. Mmh. Ils ont bien entre 17 et 73 ans. On dit pas forcément à chaque fois leur âge, mais on voit bien qu'on progresse. Et il n'y a pas a priori de lien entre eux, sauf entre le premier et le dernier, ce qui est montré à un moment donné, mais c'est presque anecdotique. L'intérêt est ailleurs. Je voulais le dire, c'est important de parler, je pense, du côté mixte du personnage, parce que on voit que William Boyd a trouvé sa formule, ça, mais c'est pas tout à fait un roman anglais. On voit bien qu'il y a un ancrage, il vit à Budapest, et c'est un roman européen. Alors avec le, il y a quand même, il y a pas mal de choses qui se passent à Londres. C'est une Europe sans Brexit. Et du coup, la couleur des histoires qu'il nous raconte est un peu différente de ce qu'on peut attendre d'un roman anglais. Il y a une grande noirceur. On ne s'en rend pas compte tout de suite parce que ça se lit bien, c'est assez facile à lire, mais finalement, chaque histoire est quand même assez, assez sinistre. Et on retrouve aussi bien, ça commence d'ailleurs par les deux plus jeunes, qui sont Simon et Ferdinand, qui font leur tour d'Europe, c'est formidable. Ils sont à Prague et vraiment, ils sont, on sent déjà le mal-être, on sent déjà la crise, on sent déjà cette absence de repère de l'homme du 21e siècle. Et alors, moi j'ai été... je pense qu'il y a un débat dans les journaux anglo-saxons de savoir si c'est une collection de nouvelles ou si c'est un roman. On s'en fiche un peu. Moi je pense qu'il y a... Peut-être qu'on peut imaginer que c'est le même homme qui vit dans des multivers, mais enfin, ça serait un peu tiré par les cheveux. Non, je pense qu'il y a une cohérence parce que je parlais de cette noirceur, mais il y a une cohérence dans la façon de raconter ces histoires, de faire des histoires qui sont toujours en point d'interrogation. Moi, j'aime bien ça, avec des personnages qui sont assez mystérieux quand même. On donne pas tout des personnages, ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, je trouve qu'il y a dans ces nouvelles, alors ça n'a rien à voir sur le plan de ce que ça raconte et même sur le plan stylistique, mais quand on lit Fitzgerald, je trouve que dans les nouvelles de Fitzgerald, il y a quelque chose qui reste après et qui fait qu'on peut, dans un ensemble de nouvelles qui ont été écrites à une même période, se dire tout ça se conjugue. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une petite musique dans ces nouvelles qui fait qu'on sait pas très bien si c'est des petits romans ou des nouvelles et qui nous amène donc à avoir cette vision certes éclatée, qui sont parfois presque trop facile. Je crois qu'il y a un critique qui disait sur internet, oui, alors c'est un peu allez, vous voulez aller au Danemark, on vous emmène au Danemark, vous voulez aller enfin il fait son petit voyage comme ça, mais à chaque fois il nous sort des histoires qui sont belles et qui racontent un petit peu la même chose. Moi j'ai été porté par à peu près toutes les nouvelles, donc on pourra parler de certaines, mais voilà, c'était pour donner ma première impression. J'ai pas le sentiment que ça soit alors ça se veut un best-seller évidemment, mais c'est pas un best-seller comme les autres, je trouve.
Bien, Grégoire Leménager, premier regard sur Ce qu'est l'homme de David Soleil.
J'aurais aimé partager cet enthousiasme parce que le livre est très gros et qu'il faut beaucoup d'enthousiasme pour aller au bout. Au début, ça m'a plutôt... j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est-à-dire que c'est pas seulement un peu sordide ou assez sordide, c'est très 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 sordide. Tout est très très sordide. On est un peu déçu de se rendre compte que c'est pas un roman mais un recueil de nouvelles, il faut être très clair.
Débat n'a pas lieu.
Mais non, mais on passe d'un chapitre à un autre et on redémarre avec une autre histoire, avec d'autres personnages à l'autre bout de l'Europe. Donc vraiment, ce n'est absolument pas un roman. C'est absurde d'appeler ça un roman. Et on est un peu déçu parce que...
On peut débattre ou pas? Ou c'est décidé en fait?
Si, on peut débattre. Vous voulez débattre?
Non.
J'ai pas vraiment dit que c'était un roman non plus.
J'entends bien. En l'occurrence, ça produit quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a écrit roman sur la couverture. On commence. Moi, j'étais plutôt attaché à ces deux jeunes types de la première histoire. Et puis, on est un peu triste de commencer la deuxième histoire et de réaliser petit à petit que ces deux types, on les reverra plus jamais. Et donc, on essaie de s'attacher au suivant. Et puis, on se rend compte qu'en fait, dans un autre décor, dans un espace-temps un peu différent, il lui arrive à peu près la même chose. Et puis, une troisième histoire où il se passe encore la même chose et toujours la même chose. Et c'est toujours la même histoire. Et au bout du compte, je me suis demandé si je ne m'identifiais pas plus facilement à la lesbienne groenlandaise de tout à l'heure qu'à l'homme blanc que je suis censé être face à sa crise existentielle permanente. Parce que il y a une très grande cohérence thématique dans le livre. Ça, on peut pas la lui enlever puisque ça raconte toujours la même histoire. C'est la frustration sexuelle. C'est-à-dire que tous les types, à un moment ou à un autre, ils sont face au même spectacle. C'est le spectacle d'une fille qui... qu'ils désirent vaguement ou dont ils sont amoureux, et ils la voient dans les bras d'un autre type, et là ils se rendent compte que c'est la fin du monde, que c'est affreux, et voilà. Donc c'est assez pauvre en fait. Vraiment, j'étais déçu. C'est Houellebecq, mais sans humour, et c'est très très répétitif. Il y a des nouvelles qui sont meilleures que les autres. Enfin, l'histoire de l'ancienne star de porno là, avec son garde du corps, elle est pas mal. Il y en a qui se détachent des autres, mais j'ai trouvé ça très, oui, très répétitif.
Bon, j'ai peur de vous attrister, de vouloir le ménager, mais Elisabeth Philippe a l'air à nouveau d'accord avec vous. C'est inquiétant ou pas?
On réglera ça après.
Sur ces sujets-là, oui, ça m'inquiète un peu.
Non, alors, déjà, première chose, pour moi, je pense que le titre n'est pas complet. Ça ne devrait pas être « Ce qu'est l'homme », mais « Ce qu'est l'homme blanc hétérosexuel ». Il n'y a pas de
en
jugement
Europe,
de valeur
occidentale,
en Europe occidentale.
Au début du XXIe
siècle. Il
n'y
a pas de jugement de valeur dans ce que c'est je dis long. Là, mais pour un... En tout cas, un livre qui est présenté comme ayant la prétention de...
Pour le coup, c'est la traduction vraiment littérale du titre original.
Non, mais bien sûr.
Non, mais ça peut.
C'est d'esprit, Arnaud. Vous l'aurez bien noté.
Parfois, il y a des éditions qui reprennent pas les vrais titres.
Mais là, c'est effectivement la traduction.
C'est son intention.
Littérale.
C'est ça que je voulais dire.
Mais pour un livre qui est présenté comme un tableau de la condition de la masculinité contemporaine, occidentale, etc., bah, c'est une certaine masculinité. C'est quand même très réducteur. Et effectivement, on a toujours. Alors, il y a vaguement un personnage qui peut être. Était un peu homosexuel, ne le sait pas avouer, mais c'est effleuré. Sinon, on a toujours affaire au même spécimen, et ensuite qui se décline à travers différentes histoires, différents âges. Procédé qui aurait pu être formidable, hein, effectivement. Moi, on parle de roman kaléidoscopique, mais il y a une seule couleur dans ce kaléidoscope. Et que ce soit la couleur de la peau, mais la couleur, la tonalité aussi du livre, qui effectivement, comme le disait Grégoire, et je suis navrée de devoir l'admettre et être d'accord avec lui, mais voilà, c'est assez monothématique. On est effectivement dans une espèce de morosité houellebecquienne. Et dans cette déclinaison donc du même spécimen confronté à différentes situations, on a affaire qu'à des archétypes, finalement. Le milliardaire russe, le jeune puceau frustré, etc. Et en plus, je trouve qu'il y a une forme de complaisance chez cet auteur et de surplomb dans la façon dont il décrit cette misère sexuelle, la laideur de ses personnages, comme il aime donner une foule de détails sur les corps obèses, cette chair qui déborde, sale, rougeaude, abîmée. Oui, il manque ou alors une ironie ou au contraire une empathie, mais je trouve qu'on est vraiment dans le surplomb et la complaisance. Et puis, un problème de style. Enfin, c'est extrêmement plat. C'est extrêmement plat. Et alors, parfois, il y a des petits effets pour essayer de relever ça, mais c'est pire que tout. C'est des répétitions extrêmement emphatiques. Solitude et liberté, point. Et on retrouve ça, solitude et liberté. Non, c'est... Et puis des effets typographiques aussi qui n'ont aucun intérêt.
Ça commence doucement, ça monte en régime chez Elisabeth Philippe.
Et sans compter, pour terminer, ça sera le stockade.
Le climax.
Il y a ces clichés... C'est cliché sur les Français. Alors, il y a autant de clichés véhiculés sur les autres nationalités dont il parle, c'est terrible. Alors, le père du jeune Lillois s'appelle Clovis et il ressemble beaucoup à Astérix. Et puis, dans une autre nouvelle, on est à nouveau en France. Et là, c'est une jeune femme. Donc, c'est quand même censé se passer aujourd'hui. Elle s'appelle Paulette. À la limite, ça serait pas grave. Il y aurait que ça. Mais non, c'est vraiment l'écriture qui est très, très plate et le côté très, très archétypal qui, moi, m'a un peu laissé froide et très frustrée aussi, finalement.
Bon, stoïcisme de Philippe Chevrier qui vous écoute. Ouais. J'hésite à prendre la parole, Philippe, mais bon, je vais peut-être vous la laisser plutôt. Ouais.
Alors, on n'a pas tout à fait lu le même livre, je pense, mais bon. Parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord dans la mesure où le côté, le côté désarroi, sinistre et tout ça. Oui, certes, d'abord, mais les personnages ne sont pas tous dans cette noirceur absolue ou l'est, je suis pas d'accord. Il y a un côté humain quand même derrière eux. La première histoire typique des deux jeunes gens à Prague, je suis désolé, elle n'est pas commune. On voit deux êtres qui sont, il y en a un qui est dans le désir d'une femme qui les a accueillis, l'autre ne l'est pas, il ne sait pas où il en est. Je trouve que ces personnages ont tous un certain mystère et il n'y a pas que du sexe. Il y a le sexe, mais c'est important. Il y a le rapport avec les femmes, bien sûr, qui sont très peu présentes. C'est bien les hommes. C'est une façon de se payer les hommes, en fait. Et s'il attaque l'homme occidental, peut-être blanc et hétérosexuel, c'est pas pour en faire un panégyrique. Donc peut-être que la solution est l'homosexualité, finalement. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la dernière nouvelle. On a, ce que vous me disiez, effleuré, plus qu'effleuré, le sujet du le personnage de 73 ans serait en fait un homosexuel honteux, si je comprends bien la dernière histoire. Et c'est finalement le grand-père du petit Simon, je vais le dire, pour qu'il y ait quand même ce lien entre les nouvelles. Non, je suis pas d'accord, parce qu'en plus je trouve que les histoires sont pas répétitives, elles sont intéressantes. Je vois pas très bien le lien qu'il peut y avoir entre l'Alexander, le milliardaire ruiné, et le ce que vous disiez, qui est une nouvelle effectivement que moi j'ai bien aimé, de l'histoire de l'homme avec sa des deux copains, avec la prostituée qui se retrouve à Londres, avec le petit Lillois, avec les Simons du début, le promoteur à la montagne. Tout ça, c'est des histoires très différentes, et moi je les ai trouvées intéressantes. Je trouve que par rapport à ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, mais on a l'impression qu'il se passe rien dans ce livre, alors que chaque nouvelle, en fait, et c'est pour ça que ça se lit facilement, je trouve, est intéressante, et que les personnages, pour moi, sont des personnages intéressants et décalés par rapport à l'image qu'on peut avoir de ces personnages très convenus. C'est des archétypes, mais quand derrière, ils réagissent pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Moi, je suis pas d'accord.
Non, mais on a affaire à un constat qui me semble assez éculé et très très convenu, à savoir, oui, vous le disiez, c'est pas du tout un panégyrique de l'homme blanc, mais les défauts ou les perversions, en tout cas, qui sont pointées dans ce livre, ne sont que des clichés. Enfin, si c'est pour revenir sempiternellement sur la lâcheté de l'homme, l'homme qui veut absolument, qui veut pas assumer sa grossesse, la grossesse de sa compagne.
Mais ça, c'est
queer, moi, toujours post. Non, qui veut pas assumer la grossesse de sa compagne et qui la pousse à l'avortement. Ça, c'est un truc, mais on l'a lu mille fois, ou même lu ou vu dans des séries B.
Mais pas dans cette, mais parce que tout est à ce moment-là.
Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous.
Tout le roman parle de la crise, tout le roman parle de.
Je suis d'accord.
Tous les romans disent qu'on est sans repère aujourd'hui.
Mais là, sur le constat qui fait de la masculinité, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Enfin, la lâcheté, la veulerie, etc., c'est quand même les mots éternellement rebattus de la masculinité. Et justement, c'est censé être la masculinité. Non, mais
pardon,
dans des clichés. Je ne dis pas que j'adhère à ce genre de constat, mais disons que voilà, sont des choses qu'on entend régulièrement, qu'elles soient vraies ou non, ça je vous laisserai trancher, mais donc voilà, je trouve pas que ça dise quelque chose de très intéressant sur l'homme d'aujourd'hui, et peut-être encore une fois parce que c'est réduit à un certain homme qui, pour moi, ne n'embrasse pas ce qu'est la masculinité.
Bon, je dirais juste quand même, pardon, hein, Philippe, parce que je
vais pas
être vraiment
vers vous,
mais
je préfère
que le problème
avoir tout d'un coup.
Mais on vous aime, Philippe.
Mais oui, ça c'est certain. Le problème n'est pas tant que le sujet ou les thèses soient éculées. Pour moi, c'est vraiment le problème du style qui est absolument majeur et qui rend pour moi la lecture difficile. Au contraire, elle devrait. Vous le disiez, elle est facile, mais elle est. Je trouve qu'on. Enfin, moi, je suis arrêté par la balourdise, quoi, de la plupart des phrases qui constituent ce livre. Donc, c'est pas tant sur ce que ça raconte. Pourquoi pas? Parce que effectivement, il y a tellement de livres, et forcément, qui parlent des mêmes sujets. Et donc, c'est là que le style quand même intervient, ou une vision. Alors, il y en a qui ont des visions plus fines, plus précises, ou comme Houellebecq a pu l'avoir par le passé. Ça fait un moment que c'est plus vraiment le cas, mais qui a pu un peu sentir l'époque avant tout le monde. Là, on est vraiment, ce que dit Elisabeth Philippe, j'y adhère, on est dans une chose un peu constatée par ailleurs, mais voilà, pour moi, il manque le souffle littéraire. Philippe.
Je sais pas, moi, je comprends pas trop ce que vous dites. Mais...
Bon, vous voulez dire un dernier mot, Grégoire Leménager.
Oui, il y a une espèce d'apathie permanente dans le style qui se veut elle-même un style, mais effectivement c'est assez lassant, et c'est d'autant plus lassant que le livre est un livre à thèse qui tape toujours sur le même clou dans chaque nouvelle, je trouve, et que la nouvelle se passe à Budapest, à Londres ou ailleurs, les personnages parlent toujours un peu la même langue, les effets de construction narrative se ressemblent, il y a quelque chose d'un peu lassant, et c'est dommage, parce que c'est un beau sujet, le malaise de l'homme blanc.
Ce livre a une très grande qualité, c'est qu'il est aimé par Philippe Chevillé. Donc rien que pour ça, on
Merci.
A envie d'y aller voir.
Avant que je fonde en larmes.
Ce qu'est l'homme, le désarroi de l'homme blanc occidental contemporain qui fond en larmes face à ses camarades de dispute. Ce qu'est l'homme de David Soloy et Shelma Michel dans une traduction d'Étienne Gomez.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute littéraire ce soir, c'est le nouveau roman de Jean-Baptiste Gendarme, intitulé « La nuit et des poussières », publié chez Gallimard. La fraîcheur de la nuit surprit Soren. La maison était plongée dans le silence. Deux faibles luminaires éclairent le salon. Des voitures traînaient sur le tapis, la dinette s'éparpillait sous la table. Depuis le jardin, Soren contempla son intérieur comme s'il s'agissait de celui des voisins. On apprend beaucoup de l'observation de la maison des autres, presque autant qu'en lisant un livre. Depuis quand n'avait-il pas vraiment regardé le cadre au mur ? Jean-Paul Belmondo, penché par la vitre de la portière de sa voiture, embrassait Anna Karina au volant de sa décapotable. Pierre Aulfou, Jean-Luc Godard, 1965. Ceux qui connaissaient cherchaient de quelle scène venait l'affiche. Elle n'apparaissait pas dans le film. Probablement une photo de tournage de Raymond Cochetier. Soren l'avait achetée dans une brocante, bien avant de rencontrer Paloma. Il l'avait fait encadrer, signe qu'il passait dans l'âge adulte et qu'il ne pouvait plus se contenter de simples punaises. Agathe avait demandé un jour quand maman et papa avaient pris la photo parce qu'elle ne reconnaissait pas maman. Il aimait raconter cette histoire aux visiteurs. Une certaine torpeur l'enveloppait. Combien de temps était-il resté dans le jardin ? Impossible de se rappeler ce qu'il faisait là. Il tremblait et avait des fourmis dans les jambes, une expression qui amusait beaucoup Agathe. Il essaya de bouger son pied, aucune réaction. Il pensa naturellement à Mathurin, son frère, hémiplégique depuis maintenant 3 ans. Ça lui était arrivé comme ça, du jour au lendemain, si on peut dire. Voilà, c'est le début de ce livre de Jean-Baptiste Gendarme, La nuit et des poussières, dont commence à nous parler Grégoire Le Ménager.
Oui, c'est un roman qui est assez court, hein, 170 pages, qui est centré sur un personnage qui s'appelle Soren, qui n'est pas groenlandais, qui est français, qui est un réalisateur de documentaires qui n'a pas complètement réussi sa carrière, puisque son œuvre la plus diffusée est une, je cite, une vidéo sur le débouche-tout présente dans de nombreux magasins de bricolage. Donc, il a dû faire des travaux alimentaires. Il est marié avec une femme qui l'a manifestement beaucoup aimé, qu'il aime sans doute encore, même s'il le sait plus très bien. Il a deux petites filles qui ont l'air assez charmantes. Et pourtant, la dépression monte chez lui et monte tout au long du livre. Alors, il y a des circonstances un peu lourde, hein, peut-être un peu trop, mais il a perdu sa mère dans un accident de voiture, son frère est un ancien drogué qui est détruit par la sclérose en plaques, et même la sexualité dans son couple ne va pas très fort, hein, puisqu'il note qu'elle était passée de pas très originale à irrégulière, et il fallait maintenant qu'elle soit rapide pour satisfaire sa femme, donc tout ça va plutôt mal. Il s'enferme dans des mensonges un peu à Jean-Claude Roman, parce qu'il n'a pas de travail, donc il fait croire qu'il a un travail. Il rumine un mot très drôle de Suran qui dit que le suicide est la seule preuve de la liberté des hommes. Donc tout ça fait que il va pas très bien, ce garçon. Et il est évidemment hors de question de raconter comment se termine ce livre, puisqu'il y a une sorte de retournement final, mais qui l'éclaire autrement. Moi, ce à quoi j'ai été assez sensible, je dois dire, c'est le côté un peu doux amer dans le style. C'est-à-dire que il y a un petit humour. Il y a donc des choses assez lourdes, hein, assez tristes, peut-être un peu trop encore une fois, mais il y a aussi un petit humour un peu glacé qui apparaît comme ça quand il rentre chez lui le soir. Il est plus déprimé qu'un écrivain revenant dans le salon du livre, ce qui moi personnellement m'amuse plutôt. Il y a des choses comme ça, et on est face à ce livre, hein, qui raconte une vie assez banale, un quotidien assez banal. On est un peu comme face à certaines chansons de Vincent Delerme. Quand il les commence, on sait pas très bien si ça va être une chanson triste ou une chanson drôle, quoi. Et il y a un peu le même effet. Voilà. Donc, j'ai été plutôt sensible à tout ça. c'est pas un grand livre, mais c'est un roman qui est assez qui dégage quelque chose sur la, oui, sur la montée du sentiment dépressif qu'on n'arrive pas à expliquer complètement, que le livre d'ailleurs n'explique pas complètement. Il y a une infinité de causes et ça préserve le mystère de cette chose assez pénible à vivre, qui s'appelle la dépression.
Bon, il y a eu une montée réprimée d'un fou rire chez Elisabeth Philippe, mais dont je ne m'explique pas encore la raison. Peut-être que vais-je la découvrir.
C'est pas ce que vous faites, Arnaud. Dénoncer comme ça.
Non, je permets à tous de savoir ce qui se passe dans ce studio, un petit peu. Je raconte pas tout.
Volonté de transparence, parfois, pas que du bon. avec un personnage qui s'appelle Søren, comme Søren Kierkegaard, l'auteur du Traité du désespoir, on peut se douter qu'on ne va pas lire une grande comédie hilarante, et on n'est pas trompé sur la marchandise, hein, ce qui est sûr. Tout à l'heure, Philippe faisait référence à Fitzgerald pour David Soloy. Moi je pensais à Fitzgerald, à cette phrase magnifique, je crois, de la Fêlure, « Chaque vie est une entreprise de démolition ». On a vraiment cette impression-là. Alors je dois avouer qu'au départ, j'étais un peu arrêtée par la sécheresse et l'aridité de l'écriture. Quelque chose de très froid, neurasthénique, un peu en sous-régime. Et j'emploie à dessein cette métaphore mécanique.
Et automobile,
puisque Søren, donc, il part en voiture. Et puis, il y a des flashbacks, il revient sur des souvenirs pendant ce voyage en voiture, ce trajet en voiture, où on ne sait pas où il va le mener. Et donc, c'est traversé par ces souvenirs, des espèces de flashs, comme ça. Et donc, avec tous ces drames, au fur et à mesure, on a le droit, donc, effectivement, la mort de sa mère, le personnage du frère est quand même vraiment surchargé, ancien drogué, schizophrène et atteint d'une sclérose en plaques. Ça fait beaucoup. Donc, là, j'ai compris qu'il fallait peut-être pas surcharger davantage l'écriture, parce que c'est déjà lesté vraiment très, très lourdement de drames. Mais bon, pourquoi pas. Et il y a effectivement cette ironie dont parlait Grégoire, qui est elle aussi très kierkegaardienne, hein, finalement. Mais ça crée une forme de disharmonie, mais qui n'est pas inintéressante, assez déconcertante, puisqu'il y a ce côté très dépressif. Et puis tout d'un coup, des petites interventions de l'auteur ou du narrateur, enfin on ne sait pas trop, qui sont assez amusantes et mordantes, assez drôles. Donc il y a une impression comme ça de fausses notes presque, mais c'est pas inintéressant, mais on sait quand même pas tellement où on va, tout comme on ne sait pas bien où va ce personnage de Søren. Donc pourquoi pas. Et puis il y a une lente montée en puissance, une accélération, tout comme la voiture accélère, il y a une accélération du rythme, mais très très subtile, et parce qu'il y a toujours, même s'il y a cette accélération, il y a toujours quand même cette espèce de pesanteur très très oppressante. Alors il y a effectivement ce renversement final qu'on ne dévoilera pas, qui n'est, à mon sens, pas si inattendu que ça. Il y a quand même beaucoup d'indices et il suffit d'avoir un peu lu des livres que je ne vais pas citer là, parce que si je les cite, on saura forcément ce qui se passe à la fin. Mais
je me demande de quel titre vous pourriez parler.
Je n'en dirai pas plus. Donc j'étais assez partagée. Il y a quelque chose, mais au bout d'un moment, ce mélange de registres, cette l'impression qu'il choisit pas vraiment, qu'il n'arrive pas vraiment à choisir. Et puis, il y a ce côté surchargé dans le drame qui, je pense, est un handicap pour le livre. Juste pour terminer, à un moment, il écrit, c'est toujours dangereux, je pense, pour un écrivain de dire ce qu'est la littérature au sein d'un livre. Mais bon, c'est son personnage qu'il pense. C'était ça, dans le fond, la littérature, de point, placer des personnages dans des situations impossibles et voir comment ils réagissaient. Et moi, je pense que le livre aurait gagné à ce que les situations soient moins impossibles, soient beaucoup plus vraisemblables, parce que c'est intéressant de voir comment la dureté du quotidien, l'accumulation de petits faits douloureux, peut mener à une dépression extrêmement profonde.
Philippe Chevillier va maintenant nous parler de Jean-Baptiste Gendarme et de La Nuit et des Poussières.
Alors, en vous écoutant, je me suis demandé si c'était pas, en fait, on n'avait pas retrouvé le 10e personnage de ce qu'est l'homme blanc occidental, ouais, avec ses déboires sexuels, sa déprime, etc. Non, plus sérieusement, moi, j'ai eu aussi ce petit... Au début, j'étais vraiment pas emballé, parce que je trouvais que le style était plat, pour le coup. Avec des petites manières, par exemple, il y a un truc que je trouve invraisemblable. À un moment donné, il dit « Son père, Pascal, appelons-le Pascal, puisqu'il se prénomme ainsi. » Est-ce que c'est de l'humour ou je sais pas quoi, mais...
Oui, parce qu'il recommence à un moment, il dit « Jules et Julien, oui, C'est ça, Julie et Julien.
Moi, ça m'a, je me dis, tiens, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu des manières. Et puis, ce que vous disiez, le côté un peu surchargé de ce qui lui arrive. Le côté, moi, j'avais l'impression que chaque personnage était un petit peu convenu. Alors, le père aussi, le père un peu méchant. Bon, le fils, ça va. Et donc, je trouvais ça un peu plat. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette montée en puissance, qu'on se rend compte que c'est un livre qui est quand même très construit, parce que, bon, on parle de la fin. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. C'est vrai que c'est un côté. Moi, j'ai pensé au sixième sens, je peux le dire, parce que ça n'a rien à voir. Mais en fait, si on relis le livre.
D'accord. Ok. C'est
non. C'est, ce que
moi,
je veux dire, c'est
que. Ça va faire mouche, mais c'est. Bon.
Je pense que c'est. Non, mais c'est pas pour faire de l'ironie sur le livre. C'est que ça, je veux dire par là que si on relit le livre ensuite une deuxième fois, on se rend compte, on les voit, les petits indices, qu'on voit pas forcément quand on a une lecture un peu rapide. Et c'est exactement ce qui se passe dans le sixième sens. Bon. Et donc, ce qui m'est apparu. Et alors après, je me suis dit, dans le fond, peu importe les moyens, même si bon, il y a des petits défauts, c'est quand même plutôt bien construit. Il y a une force qui monte comme ça, et on a un livre qui est d'une noirceur absolue, qui désenchante un petit peu tout. Alors c'est le désenchantement de l'amour, parce qu'il y a des passages sur le sexe, justement sur la sexualité qui n'existe plus après des années, etc. Et puis aussi un désenchantement qui est en filigrane dans le livre, c'est le désenchantement du cinéma, parce qu'il y a beaucoup de références cinématographiques et ça ne représente pas. Alors on pense à Claude Sautet, on pense à il y a le Pierrot le fou, il y a les documentaires. De Depardon, si je ne m'abuse.
Urgence et en fait,
c'est
divers.
Et là, tout d'un coup, c'est ce qu'on voit comme des films enchantés deviennent en fait des petits signaux noirs dans la vie du personnage. Et du coup, je me dis que pour représenter un Français d'aujourd'hui qui, dans la déprime, qui est aussi dans la crise économique parce qu'elle est présente, finalement, c'est quand même assez réussi. Donc voilà comme quoi je suis parti plutôt d'un avis défavorable et finalement je me suis fait rattraper à la fin.
Bon, moi j'avais plutôt envie d'aimer ce livre, donc je suis parti sur un pied différent du vôtre, Philippe Chevillier. Alors bon, je l'ai lu sans aucun déplaisir, sauf quand même un énorme problème, les scènes de sexe. Ça ne va pas du tout. Enfin, je trouve que c'est là pour le coup. Vous parlez d'écriture plate, là, elle est pas plate. Elle est vraiment d'une. Ça vous a pas gêné, Grégoire Le Ménager? C'est quand même parmi les pires scènes de sexe que j'ai lues.
Ce point.
C'est des dernières années. Vous les avez déjà oubliées.
Il y en a tant que ça, vraiment.
Il y en a un certain nombre.
Ah, je jubile.
J'ai l'impression que ça lui manquait.
Oui,
mais ça lui manquait plutôt qu'autre chose.
Du coup, il revient. Enfin, c'est. Oui, enfin non, il y en a quand même un certain nombre. Elisabeth Philippe retombe sur quelques pages. Ça vous fait rire à nouveau, hein, quand même. Vous. Non, mais vous êtes d'accord avec moi. C'est quand même pas ce qu'elle.
Elle a tout de suite trouvé.
Non, mais ce qui est dommage, parce que du coup, alors vous parliez d'une sorte d'arythmie ou de contraste dans le livre. Là, c'est un contraste que je trouve très malheureux parce que, écrite autrement ou alors davantage suggérée, on va dire, ou moins cliché, le livre aurait gagné en mystère. Là, il n'y a pas grand mystère, non, dans ces enfin, scènes.
On peut souhaiter à Jean-Baptiste Gendarme d'être traduit en anglais. Il aura peut-être la chance de remporter le Bad Sex Award.
Ah, peut-être.
Qui récompense la plus mauvaise scène de sexe. Non, mais en plus, pas du tout. Ça m'a pas particulièrement. Je trouve que ça se fond dans cette fausse platitude, faux plat de l'ensemble. Ça m'a pas particulièrement.
C'est un corps étranger, quasiment.
Sûr qu'elles sont moins originales que chez notre groenlandaise alcoolique de tout à l'heure. Ça, oui, c'est évident.
C'est pas faux.
Elles sont plus conventionnelles.
Oui.
Mais non, mais oui, il y a des maladresses dans le livre et c'est un peu chargé. Peut-être qu'il avait la structure idéale pour une très longue nouvelle et qu'il en a fait un roman en chargeant un peu la barque pour expliquer la dépression.
Il y a plein de qualités. Hein,
mais il a beaucoup de qualités. Et la phrase que citait Elisabeth sur la définition de la littérature, sa définition de la littérature, c'est-à-dire on place les personnages dans des situations impossibles pour voir comment ils vont réagir. Au moment où on la lit, cette phrase, on se dit mais pourquoi il nous dit ça? Son personnage est quand même pas dans une situation impossible. Et en fait, à la fin, compte tenu de ce dénouement qu'on ne peut pas révéler, on comprend qu'il était dans une situation impossible. Et cette phrase revient et se justifie. Voilà. Donc c'est quand même assez bien maîtrisé, je trouve.
Je vais dire un dernier mot, Philippe Chevillier, après avoir jubilé de ma critique. Non,
simplement, il y a un côté, c'est paradoxal, parce que on se rend compte à la fin qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le livre, et moi, tout du long, je me disais à chaque fois, mais bon, finalement, tout ça est attendu. Enfin, le personnage, d'abord, il les a campés au départ, on sait ce qui va arriver, et bon, c'est vrai qu'à la fin, on se dit, tiens, il y a une accumulation qui est pas inintéressante aussi.
Bien, La Nuit et les Poussières, Jean-Baptiste Gendarme chez Gallimard. Faites-vous une idée par vous-même. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Camille André qui nous a bien sûr rejoint pour nous rappeler tout d'abord la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Camille.
Quel film de Steven Spielberg retrace le parcours d'un célèbre usurpateur aux États-Unis ? Et il s'agit de « Arrête-moi si tu peux ».
Et ce soir, à gagner des invitations pour le film « Les bonnes manières » de Juliana Rojas et Marco Dutra, film dont on parlera demain soir dans la dispute et qui est sorti hier sur les écrans. Quelle est la question, Camille ?
Quel précédent film de Juliana Rojas et Marco Dutra emprunte-t-il son titre à un poème de Cesare Pavese ?
Cesare Pavese,
ouais.
C'est ça. On a c'est répété ça. Au bureau, Camille, comme un mince. Bon, c'est ça la question. Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez par courriel à l'adresse suivante, auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, sur laquelle vous pouvez également réécouter nos émissions, vous abonner au podcast. Demain, 19h, une dispute cinéma, donc avec Lucille Como, Muriel Joudet et Charlotte Garçon, nous parlerons ensemble de Mektoub My Love, Canto Uno, d'Abdelatif Kechiche, du film Les Bonnes Manières, on vient d'en parler, et puis La Prière de Cédric Kahn.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente The Captain, l'usurpateur, un film de Robert Schwenke. 1945, le chaos se répand en Allemagne et les armées du Troisième Reich commencent à se déliter. Des escadrons de soldats ivres multiplient les exécutions sommaires, sans différencier déserteurs et fantassins ayant perdu leur unité.
Lauf um dein Leben, du kleines Schweinchen. Na los, lauf.
Pour survivre, un jeune déserteur allemand, Willy Herold, va usurper l'identité d'un capitaine, entraînant avec lui des soldats pour une mystérieuse mission spéciale.
Mit Leid verschaffen von der Lage hinter der Front.
De Captain, l'usurpateur, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Votre soirée sur France Culture, à 21h, vous ne retrouverez pas Marie Richeux. Pas de temps qui court ce soir, en raison d'un mouvement social. Avant cela, 20h55, semaine spéciale dessin dans la carrière de la création, la ville reçoit Mathieu Dufoy, et puis 20h30, fiction de France Culture, quatrième épisode, des pages arrachées à Goliarda Sapienza. Tout de suite à voix nue.